Je vous ai mis comme, comment dirais-je, portrait là, Saint Alphonse de Liguori, et vous allez voir pourquoi je l'ai mis, qui est le patron des confesseurs. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que cet exposé-là, j'ai repris la version. Nous avons fait ça à l'Assemblée générale du clerc il y a 3 ans, sur à peu près le même sujet, mais ça a été, il a considérablement évolué cet exposé. Mais néanmoins, je l'ai fait pour les prêtres qui confessent à Notre-Dame, à Saint-Louis d'Antin. Je voudrais commencer par cette citation de Solzhenitsyn. On a servi plus facilement les peuples par la pornographie qu'avec des miradors. Je crains que ça ne soit vrai. Pourtant, les miradors, c'est pas drôle. Donc voilà mon plan. J'ai travaillé sur la définition, puis sur les causes de la dépendance, puis la description de ce que c'est qu'une dépendance, et puis comment on fait le diagnostic, et enfin la thérapie. Bon, je ne reprendrai pas ces termes un peu médicaux dans mon exposé. J'ai des sous-titres qui sont un peu différents, mais c'est quand même le plan. Est-ce que le phénomène est nouveau? Est-ce qu'il touche plus les questions homosexuelles? C'est la question que vous me pensez. Réponse, j'en sais rien. Le phénomène n'est pas nouveau, en tout cas. La pornographie, depuis qu'on sait écrire sur les parois des grottes, on a vu des sexes en érection, là, des phallus, et toutes les civilisations ont développé des objets sexuels. Donc il faut croire que ce n'est pas nouveau. Vous voyez. Et la dépendance au sexe virtuel est déjà une question de santé publique dans plusieurs pays. Nous avons en psychiatrie un manuel qui s'appelle le DSM, qui est un manuel statistique qui décrit toutes les maladies mentales, de façon à ce que les chercheurs du monde entier puissent avoir un terrain d'entente quand on dit il est comme si, ça veut dire telle maladie. Eh bien, dans la version qui sort là, bientôt en 2012, le DSM-5, et les brouillons circulaient dans la communauté scientifique, et proposer d'inclure la dépendance à l'Internet, notamment l'Internet porno, mais pas seulement, dans le catalogue des maladies psychiques. Je vous disais que ce n'est pas nouveau, mais regardez déjà à l'époque de... vous aviez la presse du cœur. La presse du cœur, c'est la pornographie des femmes, mais aussi des hommes. À l'époque du service militaire, 50% de la presse du cœur, les revues du genre, comment ça s'appelait à l'époque là, leur imprimerie était sur Malines. Eh bien, 50% de cette presse du cœur était lue par les militaires du contingent. Comme quoi, enfin, la presse romantique, on va dire. Il y avait de la pornographie sous le manteau, mais c'était pas facile d'accès. Il y a beaucoup changé avec le Minitel, et 51% du trafic Minitel était sur le Minitel rose. Bon, c'était pas porno-porno avec l'alpha mosaïque. Maintenant, on a tout en vidéo en couleur, voire en 3D. C'est fou. J'ai tapé sexe, 109 millions d'entrées sur Google, j'ai oublié de le corriger. La dernière fois que j'ai fait cette conférence, je me suis amusé à taper sexe en anglais, S-E-X. C'était pas 109 millions d'entrées. Hein. C'est 3 milliards 880 millions. Donc, même si on était accro-porno, qu'on y passe 24 heures sur 24, 7-7, et qu'on vive 150 ans, on ne pourrait pas tout voir. Et donc, on est littéralement submergé par, j'allais dire, les propositions de pornographie. Parce que ça rapporte énormément d'argent. Peut-être vous vous demandez pourquoi on trouve autant d'images gratuites sur Internet. Je dis, mais attends, comment ils gagnent leur vie, les gars? C'est l'armée du salut qui subventionne? Non. C'est qu'à partir du moment où on est accro, on va payer pour ça, et on ne peut plus s'empêcher. Et ça leur rapporte des sommes colossales. Aujourd'hui encore, enfin, je veux dire, le porno et les sites de rencontres font 40% du trafic Internet. Le site comment il s'appelle, celui sur les pour les rencontres adultères. Là, non, pas Mythique. Voilà, Gliden. Gliden.com, je lisais dans un journal du type Métro ou autre qu'il y avait déjà 2 millions d'inscrits quand même en France, alors qu'il est sorti que l'an dernier, pour des rencontres adultères. Parce que sur Mythique, il y a aussi beaucoup de gens qui ne que pour avoir des rencontres adultères, pas des rencontres pour se marier. Et puis, les potes avant Internet, il y avait les cassettes vidéo. Ils sont loués 1 million par semaine il y a 25 ans. Vous voyez, le porno n'est pas... Simplement, Internet a décuplé la possibilité, c'est tout. et le mettre chez soi. C'est-à-dire qu'on peut le faire dans le secret de son salon, de sa chambre à coucher, de sa chambre de jeune homme. Je me souviens d'un petit gars, un jeune qui avait 19 ans, accro à Internet. C'est le plus jeune qu'on ait soigné parce qu'on ne prend pas les mineurs. Et j'ai dit, est-ce que tu en as parlé à tes parents? Il me dit, oui, mon père m'a dit, mais il ne faut pas en abuser, il ne faudrait pas que tu deviennes dépendant. Il m'a dit, ce que mon père sait pas, c'est que je suis dépendant depuis l'âge de 14 ans. Et alors il était tellement zombie dans son affaire que quand il est sorti de cette dépendance, il m'a dit, c'est extraordinaire, je revis, c'est une résurrection, je fais attention. Mes camarades de classe, garçons et filles, je ne les voyais plus. Je les voyais comme un théâtre d'ombre. Il s'est réentré dans une vie relationnelle avec le monde vrai, hein, parce qu'il est sorti de la dépendance. Alors, la dépendance sexuelle augmente dans tous les segments. Pourquoi j'ai fait cette conférence à Saint-Louis-d'Antin? Tout simplement parce que le curé de Saint-Louis-d'Antin, là, il a changé, mais le précédent, m'a dit, est-ce que Olivier, est-ce que vous pourriez venir faire une formation pour les prêtres qui confessent à Saint-Louis? Ils confessent 100 000 confessions par an quand même à Saint-Louis-d'Antin. C'est un gros échantillon. Eh bien, 25% des hommes qui se confessent d'avoir recours à l'internet porno et à la masturbation. Donc, je ne sais pas si les personnes homosexuelles, c'est différent de ça, mais déjà ça, c'est énorme. Il y a le secret de la confession, mais pas des statistiques. D'accord? Et justement, ces prêtres ont dit, nous avons besoin, à ce curé, nous avons besoin comment dirais-je, d'une formation, parce que faut peut-être qu'on aille plus loin que de leur dire, eh bien, mon fils, vous vous repentez, on va vous donner l'absolution, vous allez faire une pénitence de type prière. Est-ce qu'on ne peut pas les aider autrement et plus sérieusement, indépendamment de la confession rituelle? C'est pour ça qu'ils demandaient la formation. On peut être dépendant d'activités comportementales exactement comme on est dépendant de produits psychoactifs. Alors ça, on ne le savait pas avant 1990. On savait qu'il y avait des addictions au jeu, au sexe, etc. Mais on ne savait pas que c'était la même chose au niveau du cerveau. Et c'est à partir de 1990 où on a commencé à pouvoir regarder en imagerie cérébrale l'activité cérébrale d'une personne vivante, qu'on s'est rendu compte que c'était les mêmes circuits que nous allons voir qui étaient activés lors des dépendances. Vous me demandiez une définition de la dépendance, la voilà, c'est celle officielle. La dépendance est un processus dans lequel est réalisé un comportement qui peut avoir pour fonction de procurer du plaisir et de soulager un malaise intérieur, vous retrouvez ce que vous disiez dans vos questions, hein, et qui se caractérise par l'échec répété de son contrôle et sa persistance en dépit des conséquences négatives. C'est la définition de Goodman, 1990. Si vous avez une mauvaise habitude, puis tout d'un coup, bon, vous ne faites pas attention, vous buvez trop de vin, vous écoutez trop TF1, je ne sais pas quoi. Mais quelqu'un vous dit, dis donc, t'es pas un peu accro? Ah, t'as raison. Alors, la bonne idée, par exemple, c'est l'avant. Une autre bonne idée, c'est le carême. Tiens, c'est vrai, je vais tester ma dépendance. Pendant 40 jours, vous arrêtez n'importe quel comportement que vous, ou soit par vous-même, soit parce que votre directeur spirituel ou vos amis vous disent, tiens, t'es pas un peu bon. Et si vous êtes capable d'arrêter pendant 40 jours sans sueur froide, si je peux dire, en arrêtant effectivement, vous n'êtes pas dépendant. Vous n'êtes pas dépendant. Mais quand vous ne pouvez pas vous arrêter, après de multiples essais, vous êtes dépendant. Alors, il y a des degrés dans les dépendances, mais la définition de la dépendance, c'est celle-là. Parce que la définition de la dépendance, c'est on ne peut pas s'en sortir tout seul. Sinon, on n'est pas dépendant. Si on peut dire j'arrête, puis j'arrête, c'est que ma volonté fonctionne. Là, justement, vous allez le voir que la dépendance, l'addiction. Alors, j'emploie l'un ou l'autre mot, c'est très marrant parce que normalement, on devrait dire dépendance. L'addiction étant un terme tiré de l'anglais. Mais il se trouve que le gouvernement a choisi, et les Français ont choisi, de parler de dépendance pour les personnes âgées dépendantes. Donc maintenant, dans les discours officiels, on parle de dépendance pour un travail fort utile d'aider les personnes qui ne peuvent pas vivre toutes seules. Du coup, on revient un peu sur le mot addiction pour une personne dépendante. C'est peut-être une personne en fauteuil roulant, c'est pas forcément quelqu'un qui est accro à l'héroïne. Donc voilà, j'emploie l'un ou l'autre, je sais pas encore. On est dans l'incertitude du vocabulaire. Les mécanismes de dépendance, je vous le dis, comportementales, sont les mêmes que les mécanismes de la drogue aux substances. Et nous allons aller dans ce détail-là. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? J'ai pris trois illustres références. J'ai un fils dominicain, donc ne vous étonnez pas si vous voyez saint Thomas d'Aquin. Mais saint Thomas d'Aquin a fait un traité des actes humains. Quand j'ai eu l'occasion de faire cet exposé au prêtre qui confesse à Saint-Louis, mon fils m'avait dit, bah, tu auras certainement quelques-uns de mes frères parce qu'ils confessent à Saint-Louis. Effectivement, il y avait deux ou trois dominicains, je ne me souviens plus, dont une personne assez âgée, qui avait plus de 80 ans, qui m'a dit, presque, c'est pas, il m'a dit jeune homme, mais finalement, Olivier, vous êtes en train de nous faire, de refaire le traité des actes humains de saint Thomas. J'ai dit, oui. Seulement, je vais dire à peu près la même chose, mais avec l'impression que les neurosciences disent aussi ça. Vous voyez, je ne le dis pas parce qu'un théologien l'a dit, je dis ça parce que nous le voyons dans l'expérience du cabinet et dans la théorie, comment dirais-je, psychologique et d'aujourd'hui. Le deuxième, c'est Henri Laborde, vous savez, c'est celui qui a découvert les benzodiazépines et qui a découvert comment fonctionnait ce système cérébral et le stress qui vous accable tant, dont vous avez vu les réponses dans vos questions, pardon. Et puis le troisième que j'aime beaucoup, du coup c'est un gars très simple que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui, Boris Cyrulnik, qui propose un délicieux petit livre qui s'appelle La naissance du sens, comment le cerveau humain, au-delà de enfin, avec les soubassements de la biochimie, les soubassements des comportements, du câblage neuronal, etc., aboutit à la recherche de sens, et vous allez voir comment c'est important. Vivre, c'est d'une part rester en vie, pour chacun d'entre nous, et deuxièmement, se reproduire. Les plantes, elles ne se cassent pas la tête, elles savent faire ça sur place. Donc elles ont besoin d'un psychisme très limité. Elles n'ont pas besoin de réagir vite. Ça ne veut pas dire qu'elles ne réagissent pas. Par exemple, si vous coupez d'un sapin la cime, eh bien, les branches qui sont juste en dessous vont pousser pour remplacer la cime et se mettre en concurrence. Vous coupez et têtez un sapin par la tempête, il va remplacer, mais pas une, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui prenne le pas sur les autres et tue et bloque l'arrivée comment dire, des autres branches. Les animaux ne vivent, eux, qu'en consommant l'énergie solaire médiatisée par les plantes, et donc, eux, ils ont besoin de se déplacer, soit pour trouver de la nourriture, soit pour échapper à leurs prédateurs. Donc ils ont besoin d'un psychisme beaucoup plus rapide, avec un cerveau. Alors des animaux très simples comme les limaces de mer, il y a un neurone. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une adaptation. Nous, on en a 13 milliards. L'homme est mis en mouvement aussi, comme les plantes et les animaux, par ses besoins et désirs vers des sources de satisfaction. On va avoir un manque, un besoin qui va entraîner, vous allez voir, un désir au niveau du cerveau. Et puis, ça va mobiliser une action. On va se déplacer, on va agir. J'ai faim, je vais à l'épicerie, j'achète à manger, et puis, etc. Et puis, si cette action est couronnée de succès, je vais avoir une satisfaction. Comme un animal, d'ailleurs. Si j'ai soif, je bois un verre d'eau et je suis satisfait. J'ai une pulsion sexuelle, j'ai une éjaculation, après, j'ai une sédation. Je suis satisfait. Mais évidemment, des fois, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à manger à sa faim, on n'arrive pas à ce qu'on veut faire. Et c'est au contraire l'échec, la souffrance, éventuellement la mort. Ça, c'est la vie pour tout le monde et pour tout. Pour s'adapter continuellement, notre système nerveux doit être de plus en plus performant dans l'évolution. Et en particulier, on a trois cerveaux qui se superposent et qui forment un tout chez nous, mais quand même qui ont eu des fonctions au cours de l'évolution bien séparées. Cerveau reptilien, cerveau mammifère, cerveau cortical, cortex. Alors, voilà un cerveau vu de comment dire, une coupe transversale, hein, on coupe comme ça. Vous avez le cerveau, comment dirais-je, reptilien, avec le tronc cérébral et le cervelet. Ça, c'est ce qui nous maintient en vie, qui nous donne faim, soif, qui nous fait respirer, qui fait battre le cœur, etc. Et quand on a des besoins, c'est assez irrépressible, c'est celui qui nous envoie ça. cerveau reptilien. Vous avez le cerveau des émotions qui permet une adaptation très rapide, une adaptation à l'environnement changeant. C'est le cerveau des mammifères, ici. Alors c'est là que vous allez voir, tout se passe pour nos dépendances. Enfin, pas tout se passe. C'est là que tout se commande au départ. Et puis vous avez le cortex, qui est cette grosse enveloppe tellement importante qu'on est obligé de le chiffonner pour le faire rentrer dans la tête, d'où toutes ces plis et ces scissures. Hein. Mais s'il était étalé, ça serait plusieurs mètres carrés. Donc le cerveau reptilien déclenche des comportements de survie immédiate, et nos pulsions sont toujours celles très primitives du cerveau reptilien. Mais c'est un cerveau sans mémoire. Celui qui a une mémoire, c'est le cerveau des mammifères. Il permet l'apprentissage, puis il permet la mémoire. Et sans mémoire de ce qui est agréable ou désagréable, il n'est pas question d'être heureux, triste, angoissé, en colère ou amoureux. Autrement dit, toute notre vie affective est gérée par ce cerveau des émotions. Puis le cortex, qualifié de cortex associatif, il est capable de reparcourir différemment ces éléments de mémoire. Par exemple, dans le rêve, vous le voyez bien. Un rêve, ça va être composé d'un patchwork de souvenirs, d'émotions ou d'images recomposées, inventées. Ça nous permet de la créativité humaine. On est capable de se créer entièrement un monde intérieur et de se donner des émotions qui vont avec, puiser dans notre répertoire d'émotions. Donc, on va pouvoir se donner des émotions réelles à partir de faits imaginaires, virtuels, typiquement sur Internet. On va s'exciter, par exemple, avec des images, et pourtant, le véritable fruit de nos désirs n'est pas là. C'est juste des diodes sur un écran. Donc, le cerveau cortical, dont nous sommes si fiers par rapport aux autres animaux, il nous permet l'état de conscience de soi et la conscience d'autrui. La conscience d'autrui comme un autre moi-même. C'est important, ça, c'est que. On prend conscience, vous savez ce qu'on appelle le stade du miroir, dans lequel un enfant se reconnaît dans le miroir. Au début, Lacan pensait avoir enfin, fait quelque chose d'extraordinaire en pensant que seul l'homme était capable de le faire, ce n'est pas vrai. Le chimpanzé se reconnaît très bien dans un miroir, de même les dauphins. Donc la limite entre l'homme et l'animal n'est pas là. Mais en tout cas, nous, on est capable de faire ça, mais surtout, on est capable de reconnaître les autres comme pouvant avoir des intentions et des pensées. Ce que l'animal fait, enfin les singes le font un peu, pas autant que nous. Nous sommes capables de penser que l'autre a des pensées. Et du coup, on peut retourner une acte de réflexion. Je pense que j'ai des pensées. C'est ce qu'on appelle la conscience. Vous allez voir, c'est très important dans la domination de nos addictions. Ce fait-là est très important. Et puis on peut même se poser des tas de questions, notamment le singe, lui, se pose jamais la question de pourquoi. Quand il fait des choses, il les fait sous l'impulsion de ses émotions. Il ne se pose pas la question du pourquoi. L'homme est un animal qui se pose la question du pourquoi. Il n'arrête pas de se la poser. Et puis ici, il y a une curieuse idée qui n'est pas religieuse, qui est même psychologique, c'est l'idée de la justice. Des expériences ont été faites récemment pour montrer que en dehors de tout, comment dirais-je, ordre moral, eh bien, on a une notion de, par rapport à ce premier sentiment de la conscience de soi et d'autrui, d'une idée de justice et de justice immanente. Mais dans toutes les religions de la Terre, on retrouve toujours la même phrase que généralement on appelle la règle d'argent et la règle d'or. Là, je vous ai écrit la règle d'argent, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Alors, c'est dans tous les livres religieux, y compris la Bible, le Nouveau Testament. Ça, c'est la règle d'argent. La règle d'or, c'est la même en positif. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi. Vous trouverez dans tous les continents, toutes les religions. J'avais cherché sur Internet, c'est bien Internet, justement, regardez cette règle d'or, comment elle était partagée par toutes les civilisations. Donc, dans le cerveau de l'homme, ces trois cerveaux dont je viens de vous parler sont superposés, mais ils sont pas autonomes. Mais c'est toujours, les pulsions de base viennent du cerveau primitif, reptilien, donc inconscient a priori. Nos émotions, c'est ce qui va nous émouvoir, donc nous mouvoir. La décision d'aller acheter un poulet, à un moment donné, j'ai faim, j'ai pas trop faim, je continue à travailler, puis hop, je m'arrête, je vais aller acheter à manger. Eh bien, cette décision-là, vous allez voir, est inconsciente. Mais nous avons, honnêtement, depuis Descartes, on croyait que c'était nous qui décidions. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on dit j'ai faim, bah tiens, j'ai faim. On se rend compte qu'on a faim et on va acheter. C'est une illusion, je vais vous le prouver. Expérience capitale pour la suite. Les émotions humaines sont organisées dans notre cerveau autour de trois systèmes spécifiques qui mobilisent essentiellement le cerveau mammifère. Le système dit de la récompense et du plaisir, c'est lui qui va s'emballer dans la dépendance. Le système dit de la punition et le système inhibiteur de l'action. Alors, le système de la récompense et du plaisir, que ce soit une extase de Sainte Thérèse d'Avila ou un orgasme ou n'importe quoi, c'est toujours le même système, les mêmes neurones qui sont impliqués avec la gestion de la dopamine. Quand c'est un désir sexuel, dopamine plus testostérone, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Donc, on appelle ça aussi le cerveau des émotions, le système limbique. Vous savez, on l'a vu tout à l'heure sur la coupe, hein, c'est le milieu. Mais ce système-là va envoyer de la dopamine dans tout le cerveau, c'est-à-dire que la dopamine va inonder la totalité du cortex et modifier nos idées mêmes. Je prends un exemple non sexuel. Vous avez remarqué que quand on est mort de trouille, eh bien, on se fait des idées noires, qui d'ailleurs augmentent la peur. La peur engendre des idées noires, et les idées noires engendrent la peur. Système qui va s'auto-multiplier. C'est vrai pour toutes les émotions. Au contraire, quand vous êtes dans la joie, on regarde le monde et on a l'impression que tout va bien. Les neurotransmetteurs concernés, essentiellement la dopamine, mais aussi la phényléthylamine. Alors ça donne des prétextes aux gens pour manger du chocolat sous prétexte qu'il y a de la phényléthylamine. Ne vous laissez pas faire, mangez du chocolat parce que vous aimez ça, sans chercher un prétexte. Car la phényléthylamine qu'il y a dans le chocolat, une fois qu'elle est dans votre estomac, elle est digérée, donc elle ne marchera pas. Celle qui marche, c'est le cerveau qui se la fera. Mais mangez du chocolat. Noir. Alors, je vous disais que quand le cerveau des émotions envoie de la dopamine dans le cortex, il envoie pas, il envoie un peu partout, mais particulièrement dans le cortex orbitofrontal. Là, c'est le cerveau vu de devant. Vous voyez, là, à gauche, il est vu de devant. J'ai appuyé sur mon bouton. Attendez, c'est celui-là, là. Vue de devant et la vue en coupe. C'est là que ça se passe. Ça va nous donner les idées. On va le revoir un peu en détail tout à l'heure. Cortex orbitofrontal, dans le front, au-dessus des orbites. Tout bête. Eh bien, il y a deux zones qui correspondent à des désirs différents. Regardez. La zone primaire, comme la nourriture et le sexe, vous en parliez, c'est ici, c'est dans le bas. Au niveau de l'évolution, c'est plus primitif. Mais des plaisirs secondaires comme le fric ou le pouvoir, c'est au-dessus. C'est localisé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être accro et au pouvoir et au sexe, comme dirait l'un de mes camarades de l'école que j'ai fréquentée et qui habite Place des Vosges. Lui, c'est la totale. Donc, le système de la récompense, c'est essentiellement ces noyaux-là, vous voyez, dans le cerveau limbique, l'aire tegmento-ventrale, et puis les amygdales qui vont se souvenir des plaisirs, et c'est le souvenir des émotions dans les amygdales. Ce n'est pas ces amygdales-là, hein, c'est les amygdales qui sont dans le cerveau, il n'y a aucun rapport avec nos amygdales. Ce que vous me diriez, alors il suffit de se faire opérer les amygdales, ça ne marche pas comme ça. Et puis le noyau accumbens. Bon, je prends alors, j'ai dit, ben, je vais changer la flag parce que ce sera des homosexuels. Je dis, non, 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 il y a aussi des lesbiennes. Donc, je n'ai pas changé. Mais prenons par exemple une sollicitation appétissante. Alors, j'ai mis cette femme-là que j'ai trouvée sur Internet, évidemment. Sur un site gratuit, bien sûr, je ne vais pas payer pour ça. Et donc, le côté, mon œil détecte cette source-là, il va y avoir une entrée sensorielle. Ça va traiter les rayons lumineux qui rentrent dans mon œil jusqu'à ce que, ah, ça c'est une image de femme nue. Ouh, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. Idée. C'est là que ça se passe dans le cortex orbitofrontal. Et là, on déclenche la sonnerie d'alarme. Ta-da-da, ta-da-da, hop. Non, c'est pas ce bouton-là, c'est celui-là. Envoyer la dopamine. Hop. et après action. Et pour toutes les choses que vous alliez dire, j'ai faim, bon ben je vais acheter ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais acheter les poulets pour mettre au micro-ondes, les petites ailes de poulet, ça a été fait comme ça. Donc le système de la punition, c'est au contraire celui qui produit inconfort et peur devant les situations dangereuses. Génère des réactions de fuite ou de lutte pour nous adapter au danger. La peur est un sentiment utile. Ça nous prévient du danger. Des gens qui, par exemple, n'ont pas de douleur et de souffrance, c'est une anomalie chromosomique, eh bien, ces gens sont en danger de mort. Parce qu'ils se brûlent, ils ne se rendent même pas compte, ils ont pas mal, quoi. Ceux qui aiment les romans à la mode, comment c'est Lucie, comment elle s'appelle, hein? Ah, ce roman écrit par un Suédois, là. Millennium. Donc là, comment elle s'appelle, la Salinger, là, comment, la petite jeune fille, là. Lisbeth, je sais plus. Elle est, comment dirais-je, elle n'a pas peur. Hein. Mais non, c'est surtout le grand géant qui, dans le deuxième tome, il ne se ressent rien. Il n'a pas de mal, il n'y a pas de douleur. Non, Lisbeth, elle est autiste. Elle s'est dit, Asperger, elle s'est dit Asperger, elle est autiste intelligent. J'ai des gens merveilleux qui viennent me voir au cabinet qui sont Asperger, et c'est tout à fait important de voir comment ils vivent. Pas facile. Donc, système de la punition, là encore, noyau principal, c'est l'amygdale, parce que c'est elle qui garde les souvenirs des grandes peurs. Oh là, j'y vais pas là-dedans, ça c'est trop dangereux, ça fait trop peur, ça. Voilà, c'est l'amygdale. Mais ce n'est plus la dopamine, mais un autre produit qui s'appelle l'acétylcholine, et commande la sécrétion d'adrénaline. Hein, vous avez peur, hop, tout de suite, vous êtes. Et puis, quand c'est fini, que vous n'êtes pas mort, vous avez des petits picotements dans les doigts, et vous dites, ah, ça, c'est la décharge d'adrénaline, ce qui est vrai. Vous êtes fait peur en voiture parce que le gars, l'autre voiture a frôlé la vôtre, là. Après, vous avez des picotements dans le dos, dans les doigts, c'est l'adrénaline. Mais ensuite, c'est la cortisone qui va aussi nous préparer à ne pas avoir mal. Par exemple, comment il s'appelait ce fameux coureur cycliste qui est mort récemment d'un cancer, qui avait écrit un bouquin, c'est on est. Comment? Voilà, Laurent Fignon avait raconté ça. Il se dopait à la cortisone. Cortisol. Parce que c'est vrai que c'est un métier de dingue, ces trucs aux 200 km par jour. Pour ne pas sentir la douleur et aller au-delà de signal d'alarme, en fait, hein, eh bien, il prenait du cortisol. Bon, évidemment, il se bousille le cerveau. Et le troisième système inhibiteur de l'action, c'est activé quand fuite et lutte sont impossibles. C'est le système que j'appelle, moi, le système de la résignation. Par exemple, une expérience que vous pouvez faire, si vous êtes très cruel, mais c'est difficile à faire. Vous prenez un cafard, très difficile à attraper, et vous le mettez dans une boîte à chaussures de façon à ce qu'il ne puisse pas s'échapper. Là encore, très difficile à faire. Et vous ennuyez le cafard avec une paille, un petit bâton, comme ça. Alors, il va essayer de se sauver. En général, ils y arrivent. Mais enfin, si vous avez été habile dans votre piège, il ne peut pas se sauver. Alors, il va essayer de se rebeller contre votre petit brin de paille, là. Puis, quand il va se faire retourner 36 fois, là, prenez un scarabée, ça s'échappe moins vite qu'un cafard. À un moment donné, il fait le mort. Vous avez remarqué ça? Il dit, le moyen de m'en tirer, c'est de faire le mort. Je prends un exemple qui est exploité systématiquement par les gens qui attaquent les banques. Ils font beaucoup de bruit, ils font peur, et ils disent tout le monde par terre. Et quand les gens sont par terre, terrorisés, ils ne bougeront plus parce qu'ils sont pris par le système inhibiteur de l'action. C'est vrai que ce n'est pas le moment de faire le malin, parce que si vous êtes juste avec votre portefeuille et votre carnet de chèques, contre un gars qui a une mitraillette, il vaut mieux faire le mort. D'ailleurs, c'est ce que demandent les banquiers à leurs employés. Faites pas les cow-boys, hein, vous filez le fric, c'est moins grave que que vous receviez des balles. Et donc, c'est la sérotonine, le neurotransmetteur, qui joue le rôle majeur dans ce problème-là. Oui, tout à fait. Vous savez que pour bloquer une dépression, on va donner un inhibiteur de recapture de sérotonine, comme le Prozac ou autre truc comme ça, qui vont faire qu'on va augmenter son taux de sérotonine pour diminuer l'anxiété. S'il y a quelqu'un de très habile en informatique, tu peux me dire comment empêcher Outlook de me foutre ce truc-là au milieu de mon PowerPoint. Alors ça, deux ou trois fois, quand ça ne marchera plus, j'irai répondre à cet ordre stupide. Donc l'activation persistante du système inhibiteur de l'action, dont je viens de vous parler, le troisième système, parce qu'on a le sentiment d'un monde que l'on ne contrôle pas, auquel on ne peut échapper, stimule de façon chronique le système d'inhibition de l'action. Et donc le cerveau est trop plein de cortisol, et le cortisol a l'un des effets secondaires néfastes, enfin au départ c'est fait exprès, il va détruire les dendrites qui font les connexions des synapses. Vous prenez un enfant battu, quelle que soit sa réaction, il reçoit sa punition, ses coups, au bout de très rapidement, mais l'aborite le montre pour des rats de laboratoire aussi, eh bien il va perdre toute activité, il va être prostré dans son lit à l'hôpital ou dans sa cage si c'est le rat, et petit à petit il va être hébété, abruti, mais il va perdre la santé, il souffrira beaucoup moins. Mais finalement c'est comme le cerveau se couper de tout moyen de relation avec l'extérieur pour ne pas souffrir. Cette source d'anxiété quand même touche 2 à 5% de la population quand même, c'est énorme. Alors plus malheureusement on est intelligent et sensible, plus on est sujet à avoir un sentiment tragique du monde. Et ça c'est pas facile pour les gens très intelligents. Si vous voulez être heureux, essayez d'être une brute épaisse. C'est le plus simple. Bon, si vous n'en avez pas les moyens, d'être une brute épaisse, on va parler des autres moyens quand même. Alors, le moment du choix d'aller acheter le poulet est-il conscient ou inconscient? Je vais faire une traduction simultanée, rien de tac. J'aime beaucoup cette expérience-là, elle est fondamentale. Voilà comment ça se passe. Est-ce que Descartes avait raison quand il pensait qu'on avait un esprit libre qui commandait un corps machine par l'intermédiaire d'une glande qu'on appellerait la glande pituitaire? Ça, c'est le site Descartes. Et lui, il le pensait. Il pensait qu'il y avait un esprit qui venait de je ne sais où, sans doute de Dieu, et puis qui commandait sur Terre une machine qu'on appelle le corps humain. Non. Ici, on a fait faire l'expérience suivante. On prend un certain nombre de personnes qu'on va mettre devant un ordinateur avec un bouton à gauche et un bouton à droite de l'écran. Bouton, on peut taper avec le point gauche sur la gauche ou avec le point droit sur la droite. Et on dit à la personne, vous tapez quand vous voulez, vous allez le faire plein de fois, hein, des dizaines de fois, c'est vous qui décidez quand et où, gauche ou droite. Vous pouvez faire exactement la combinaison que vous voulez. Et on a mis le cerveau de cette personne-là sous surveillance dans une imagerie cérébrale. Devant elle, elle a l'écran de l'ordinateur qui égrène un compteur de temps, enfin en fait c'est les lettres de l'alphabet, qui fait que quand vous avez décidé que le coup d'après ça sera à gauche, vous vous souvenez de la lettre qu'il y avait sur l'écran à ce moment-là. Donc ça nous permet de dater le moment perçu de la décision droite ou gauche, ici. Et puis, le moment où on appuie sur le bouton, vous voyez, c'est un petit peu décalé, c'est 0,8 secondes, c'est normal. Enfin, 8 dixièmes, hein. Mais regardez, prédiction de la décision par les microstructures de l'activité cérébrale, c'est-à-dire, on a été regarder les neurones moteurs, et bien, quelques 4 à 8 secondes avant, les neurones ont déjà prévu qu'il appuierait à gauche. Alors, c'est pas à 100%, mais regarde les taux de, comment dirais-je, de prédiction. Qualité de la prévision, 50 à 60%. Autrement dit, nos décisions sont prises sur la base d'émotions, y compris quelque chose qui n'est pas du tout émouvant. Hein, appuyer sur un bouton à gauche ou à droite. Alors, l'une des explications possibles, en tout cas c'est celle que je vous livre, c'est qu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la conscience, cette capacité de repli du cerveau sur lui-même et de se rendre compte de son état, je pense que je pense en fait, hein, c'est tellement complexe à faire, petit a, le singe n'y arrive pas, comme nous, et petit b, ça prend du temps à calculer. Et donc, ça prend quelques secondes pour prendre conscience de quelque chose. Qu'à cela ne tienne, comme on dit en vietnamien, qu'à cela ne tienne, on va programmer le cerveau pour lui gommer cette petite différence de 4 à 8 secondes et lui faire croire que c'est lui qui a décidé. C'est-à-dire qu'on gomme, on masque ce temps de la décision. Et donc, quand nous pensons, on dit, tiens, j'ai faim, je vais m'acheter mon poulet, ou je vais regarder Internet, etc., bon, eh bien, en fait, la décision a déjà été prise avant. Ça, c'est pas commode pour arriver à faire des exercices de volonté. Tout va se jouer là-dessus. Et la solution aussi. Le cerveau cortical, dont nous sommes si fiers depuis Descartes. Alors, il y a un gars qui a écrit un très bon bouquin que je vous conseille, si vous avez envie de creuser, qui s'appelle L'erreur de Descartes, de Antonio Damasio, qui est. Alors, je croyais qu'il était américain. J'ai fait cette conférence il y a un mois. Il y a une fille qui m'a écrit. Non, Olivier, pouvez-vous dire qu'il est portugais? On est très fiers de lui, on n'en a pas beaucoup. Alors maintenant, je le dis, parce qu'effectivement, je dis, vous avez raison d'être fier, parce que c'est un gars extraordinaire, sauf qu'il a fait effectivement de sa carrière aux États-Unis. Antonio Damasio, qui a écrit L'erreur de Descartes pour montrer justement que la décision, c'était quelque chose de beaucoup plus complexe et autre que ce que Descartes croyait. Mais saint Thomas d'Aquin, lui, il avait repéré le truc, pas Descartes. Donc, les actes que nous croyons décider, en fait, c'est une décision. Si nous nous sommes préparés au bien, nous sommes capables de faire des actes bons. Et donc, il faut s'entraîner au bien pour pouvoir le faire. Et s'entraîner au mal, malheureusement, il y a des gens qui ont entraîné d'autres au mal pour leur faire faire automatiquement des choses horribles. Vous en avez suffisamment d'exemples dans la tête, hélas. En langage chrétien, la conscience doit être éclairée et entraînée par des exercices spirituels. Je vous rappelle qu'en grec, askésis, c'est l'entraînement, hein, c'est-à-dire de rompre avec les automatismes de l'espèce pour aller plus loin. Décision et volonté, deux systèmes réguliers de la conscience. Quand les païens, alors je cite Romain, hein, les lettres aux Romains, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est-à-dire qu'au fond de nous-mêmes, il y a la possibilité de se réguler, encore faut-il s'entraîner. La décision, c'est un processus de deux processus opposants, du désir et de la crainte. Les deux systèmes dont je vous ai parlé, par exemple, j'ai faim, je vais aller au supermarché, je prends du poulet et puis je vais me sauver sans payer. Oh là, il y a du risque quand même. Et donc, je vais finalement payer parce que c'est moins coûteux d'acheter le poulet que d'aller en prison. À tout moment, j'ai envie de faire tel acte, oui, mais le risque. La peine encourue peut être grave, plus grave que le bénéfice, et donc c'est toujours une décision bénéfice-risque. Quand on agit, c'est que on trouve que on a intérêt à agir. C'est le risque perçu. Risque perçu. Parce qu'on va revenir là tout à l'heure, on peut très bien se tromper dans l'évaluation du risque et avoir peur pour rien. Ou penser qu'on va trouver le bonheur dans une substance et puis que finalement, c'est une erreur, c'est une impasse. Alors justement, quels sont les désordres de la volonté qui vont gêner ce système-là? Un, l'émotion qui empêche d'agir, je vais vous l'expliquer, et deux, le dérèglement du jugement. Évidemment, si vous n'êtes pas prévenu d'un danger, ben, vous y allez croyant que c'est bien. C'est ce que font tous les poissons quand ils voient un ver, ils ne voient pas l'hameçon. C'est un dérèglement du jugement du poisson. Surtout que la veille, on avait mis plein de nourriture dans la rivière sans hameçon. Ça s'appelle l'amorçage. Alors, qui envoie des images porno gratuites sur Internet, c'est pour amorcer le poisson. Parce que le payant, il y a un hameçon. Mais quand on est accro, on est accro. Et on peut y passer la nuit, comme vous le savez, ou 2 ou 3 heures. Et puis au bout du. Les premières, les petites images, elles sont mignonnes, celles qui sont gratuites. Mais après, ça ne suffit pas. Je pense à un exemple terrible, mais qui est réel. Pas spécialement homosexuel, d'ailleurs, c'est. Des gens qui filmaient des scènes de viol. Alors, il y avait des actrices qui mimaient les viols, etc. Mais après, on vendait pour des sommes de type 3 ou 4 000 dollars aux États-Unis, en Californie, des vraies tortures et meurtres de filles prostituées, certes, mais mexicaines, sans papier, dont on leur disait, vous allez tourner un film porno, bon, d'accord, voilà, c'est payé tant. Sauf qu'elles étaient réellement torturées, mais les gens le savaient. Ceux qui achetaient les cassettes savaient que c'était des vraies scènes de torture filmées. Parce que la Vendée est la très morbide et plus fort, vous voyez. Et je sais plus si c'est le FBI, je crois, enfin, était obligé de remonter ces filles-là, parce que c'était terrible. Évidemment, c'était le milieu du grand banditisme. Alors, quand ça ne se régule plus, là, les deux systèmes, et je vais vous expliquer pourquoi ça ne se régule plus, eh bien, on tombe dans la dépendance. Par exemple, ah oui, avant ça, tout peut devenir une drogue. C'est une question que vous m'avez posée 3 fois, je crois, autant que je me souvienne. Qu'est-ce que c'est, à quoi peut-on se droguer? Vous avez parlé de la nourriture, vous avez du sexe, du porno. On peut se droguer, par exemple, même sur Internet, au chat. C'est pas du porno, mais c'est terriblement excitant. Et vous avez des gens qui sont drogués, notamment les femmes, au chat, amoureux. Vous avez des gens qui sont drogués au jeu. Sur Internet ou pas sur Internet. Les paris sur les champs de course, c'est pas d'hier. Hein. Et vous avez regardé, j'ai tapé sur poker en ligne, enfin poker sur Internet, là c'est moins que sexe quand même. Enfin, c'est plusieurs centaines de milliers d'entrées, alors que c'est un truc qui date depuis 2 ans. Ça. Dans un second type de dépendance, ce n'est plus la cocaïne, l'héroïne, la morphine, la nicotine, l'alcool. C'est le cerveau lui-même qui se fabrique sa propre drogue qu'on appelle les endomorphines, généralement enfin, raccourci en endorphine. Très facile de donner des exemples. Vous prenez un exemple, vous avez cet exemple scientifique qui a été fait, comment on appelle ça, un gars qui arrache les dents. Mais pas le dentiste, quand c'est un peu le stomato. Un stomato arrache des dents, et ça fait évidemment très mal, et donne à un certain nombre de personnes des dérivés morphiniques pour retirer la douleur. Et il donne à une autre partie de l'échantillon un placebo. Conformément aux attentes scientifiques, 30% des gens à qui ils ont reçu le placebo n'ont plus mal. C'est toujours comme ça, à peu près 30% à placebo. C'est fort, hein, quand même. C'est le médicament le plus utile de tous les médicaments. J'appelle ça la placébine. Et donc la morphine va, quand ce compris dérivés morphiniques, bloquer les récepteurs des neurones de la douleur. Mais il existe un médicament qui va contrer, si on veut, l'effet de la morphine, qui va se mettre à la place de la morphine, qui va neutraliser l'effet de la morphine, une fois qu'on l'a prise. Et donc on donne ce médicament-là, on ne dit pas ce que c'est évidemment. C'est la poudre blanche ou ce qu'on veut. Et on donne ce médicament à la fois aux gens qui ont eu de la morphine et à ceux qui ont eu du sucre en poudre. Et ceux qui ont eu la morphine ont de nouveau mal. Et ceux qui ont eu le placebo, contrairement à toute attente, ont de nouveau mal. On a eu le fin mot de l'histoire par imagerie cérébrale. On a vu qu'en fait, quand les gens ils reçoivent le placebo, le cerveau il s'envoie lui-même des endomorphines à l'endroit du neurone qui signale la douleur de telle dent. Autrement dit, cette expérience-là, c'était voir sur un écran d'ordinateur, dans le cerveau lui-même, l'effet d'une croyance sur le corps. Je croyais que j'avais un médicament, donc je me soignais tout seul. Oui, c'est puissant comme truc. Oui? Mais la suggestion, elle a un support. Elle a un support qui est que le cerveau envoie sur les neurones adéquats le produit qui fait qu'on a plus mal. Alors, très facile de s'envoyer des endomorphines. Quand vous êtes en fatigue cardiaque, on s'envoie pendant au moins 30 minutes. Je l'utilise tous les jours avec mes dépendants parce que dès que vous courez ou vous faites battre votre cœur à peu près à 70% de votre vitesse cardiaque max, c'est-à-dire 220 moins votre âge, donc vous multipliez par 0,7, et puis vous allez voir que pendant une demi-heure, vous êtes à 110, 120 ou 130 selon votre jeunesse, eh bien, votre cerveau, au bout d'une demi-heure, va fabriquer des endomorphines. C'est ce que moi, quand j'étais gamin, on appelait, on ne savait pas tout ça, on avait atteint le second souffle. On courait, mais on n'avait plus mal. J'ai fait de la course de fond quand j'étais au lycée. Ça peut être on peut être drogué à l'endomorphine par le sport, le jeu. C'est une combinaison d'adrénaline et de la présence d'une personne particulière ou toute autre situation. Quand une personne est amoureuse d'une autre, fort, on a le coup de foudre, on est en fait, on est addict, on est dépendant de cette personne-là. Une preuve expérimentale, vous demandez à quelqu'un de regarder des photos, bien entendu, son cerveau est mis en observation dans l'imagerie cérébrale, et vous lui montrez des photos. Et parmi les photos, vous lui montrez la photo de son chéri. Mais le chéri du moment coup de foudre, hein, le début, quoi, le début de la rencontre. Et là, vous voyez le cerveau des émotions, là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui est fortement en activité. Donc ça se voit sur les couleurs de l'ordinateur. Maintenant, vous essayez de faire la même expérience avec des personnes qui aiment leur compagnon, mais avec qui on est depuis 10-15 ans, hein, les couples rassis, hein, eh bien, le cerveau, je fais partie des couples rassis, je suis marié depuis 42 ans, eh bien, comment dirais-je, vous aimez pas le pain rassis, vous dire. Vous savez pas ce que c'est que du pain. Ça, faut être parigot pour aimer que la baguette. Je reconnais que la baguette fraîche à Paris n'est bonne que dans les 10 minutes qui sortent de la cuisson. Mais le vrai pain, il est bon très longtemps. Bon, je reviens sur cette affaire-là. Quand on montre, on mêle dans les photos que la personne regarde, la photo de l'être aimé, mais que c'est un amour de longue date, le cerveau s'allume, mais pas les mêmes zones. C'est une espèce de constellation qui touche un peu tout le cortex et tout. Vous voyez, on voit, c'est pour ça que j'ai une conférence pour les jeunes qui s'appelle Être amoureux n'est pas aimer, ou des fois je l'appelle Aimer n'est pas être amoureux. Ce n'est pas les mêmes phénomènes psychiques. Et donc on peut être dépendant, et je peux vous le dire, c'est quand on est dépendant et que l'autre personne, quand les deux personnes sont dépendantes l'une de l'autre, ça va bien. Mais ça ne dure pas. Jamais ça s'arrête au même moment pour l'un et pour l'autre. Mais on peut se droguer avec tout, y compris de l'eau pure. À l'hôpital, on voit des gens drogués à la flotte, on appelle ça des potomanes, ils peuvent boire 20 litres d'eau par jour. Et alors le pire, c'est que. Comment? Eh ben non. J'allais vous le dire. Le symptôme du potomane, parce qu'il est tellement déminéralisé à boire trop de flotte, que la chimie, vous savez que les neurones, ils fonctionnent partiellement, l'électricité, puis la chimie, l'électricité, c'est faite par une espèce de pompe électrique entre les ions sodium et les ions calcium. Quand vous avez plus assez de ça, eh bien, votre cerveau, le potentiel baisse. Le potentiel. Et que les gens qui sont potomanes, ils parlent comme s'ils étaient sous. Comme ça, et puis. Oui, petit tube, exactement comme quelqu'un de ivre avec de l'alcool. C'est une saloperie aussi, ça. Enfin, c'est beaucoup plus rare que l'alcool. Hein. Oui, alors j'arrive, oh là là, oh là là. On peut se droguer au fric. Vous l'avez vu, la zone qui touchait. Et on peut se droguer avec l'ivresse du pouvoir. Et on peut se droguer avec la prière. Alors j'ajoute toujours, pour faire rigoler, des autres religions, des autres religions. Mais vous pouvez facilement vous droguer à la prière, notamment ça arrive beaucoup des gens qui sont très anxieux, débitent des chapelets sans arrêt, mais quand ils arrêtent, ça crée leur anxiété, quoi, parce que c'est une dépendance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire le chapelet, mais vous pouvez être dépendant au chapelet. Comment? Je n'ai pas dit ça, je dis il ne faut pas être dépendant. Vous voyez ce que je veux dire? Dépendant. Mais peut-être que pour certaines personnes, oui. Peut-être qu'on doit se purger de ça, oui, peut-être. Et de faire autrement, par exemple, de consacrer un peu plus de son budget aux pauvres. Ça, c'est une dépendance très difficile à avoir. Tout le monde n'y arrive pas, celle-là. L'ivresse du pouvoir et même la prière. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui sont codépendants. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que comme c'est les mêmes circuits, quand on crée une ornière de comportement, eh bien, on s'affaiblit. Par exemple, les alcooliques sont souvent, même après la cure, ils se rattrapent sur le café et le tabac. Puisque jusqu'à nouvel ordre, c'est bon, c'est socialement admis, quoi. Mais ils sont accros quand même, et ils allument une cigarette avec le mégot de l'autre, quoi. Puis vous les voyez en sortant du train, maintenant qu'on n'a plus le droit de fumer dans le train. Tant qu'ils n'ont pas leur nicotine, ils sont mal, quoi. Et la caféine aussi, des gens qui sont drogués à la caféine. A priori, c'est une drogue sociale, pas trop. Mais vous avez des gens très drogués à la caféine. Et même la prière des autres religions. J'arrête maintenant ou... Bon, ça y est, je suis arrêté. Non, je fais juste trois slides. L'accoutumance, dans le cas de la drogue, c'est ce qu'on appelle l'état de manque supportable. Le cerveau s'accoutume au plaisir qui devient moins fort que la première fois. Dans l'hippocampe, on a stocké l'émotion primordiale. On dit des cocaïnomanes qui cherchent toujours à retrouver le premier flash qu'ils ne retrouvent jamais. Et donc, ça provoque un déséquilibre. Le cerveau s'accoutume, donc on augmente les doses pour avoir le même plaisir. C'est ce qu'on appelle l'accoutumance. Ce qui fait que les petites, au début, vous regardez une image porno, vous avez vu la cheville de la personne et vous avez une érection. Après, pour avoir l'érection, il faut aller plus loin, quoi. Nos ancêtres, une fille descendait du carrosse et montrait sa cheville, là, ils étaient partis pour 2 jours. Mais ça provoque une douleur artificielle qu'on appelle le manque. Ça peut être, dans le cas des grosses addictions, par exemple l'héroïne, la cocaïne, très fort. Mais pour la dépendance sexuelle, ce n'est pas une douleur nerveuse, enfin je veux dire corporelle, mais c'est un mal-être terrible. Terrible. Ce qui fait que c'est là où on tombe dans le piège. À la fois, votre système du plaisir vous pousse à consommer l'objet du plaisir, et à la fois le système de la punition et du danger évite la douleur en me disant aussi qu'il faut prendre le produit ou le comportement. Autrement dit, les deux systèmes qui s'équilibraient, désir, crainte, travaillent ensemble dans le mauvais sens. Et donc on est dépendant puisqu'on a débranché notre système de décision. Je répète. Les décisions sont le fruit de deux processus opposants, un équilibre entre le bénéfice et le risque, le plaisir et la douleur. Mais dans le cas de la drogue, le manque de plaisir provoque une douleur. Et pour échapper à la douleur, on fait fonctionner le système de la douleur dans le même sens que le système qui cherche le plaisir. Et hop, on n'a plus d'équilibrage. C'est pour ça que notre système de la volonté, pour ça qu'on ne peut pas y arriver tout seul, parce qu'on a bloqué le système. Mais si on le sait, on dit oui, mais je suis dépendant. Le plus difficile, c'est de se reconnaître dépendant. Une fois qu'on se reconnaît dépendant, on dit bon, ok, je sais que je suis dépendant, donc il faut que je me fasse aider de l'extérieur, puisque je sais que ce n'est pas possible. Intellectuellement, le cerveau, il continue à fonctionner quand même. On sait ça. Donc on va consulter un psychologue, un sexologue, un addictologue, bon, son médecin traitant, tout ça, c'est des bonnes solutions. Mais il faut le faire. L'erreur. Très fréquente, je vais m'en tirer tout seul. Donc vous perdez 1 an ou 2. Dans le cas de l'alcool, c'est grave, parce qu'en plus, vous vous abîmez au niveau démence le cerveau. Pourquoi le système plaisir-souffrance se dérègle-t-il plus spécialement chez certaines personnes? Vous avez des gens qui prennent du haschich, par exemple, mais ils ne tombent pas tout de suite, ils ne sont pas accros. Vous voyez, ils peuvent en prendre une fois par mois, un truc comme ça, ils ne sont pas accros. Vous avez des gens qui fument, ils ne sont pas accros. Vous voyez bien la différence avec quelqu'un qui est accro au tabac ou au cannabis. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas l'usage du produit qu'on regarde, c'est le basculement dans la dépendance. Pourquoi certaines personnes se dérèglent-ils très rapidement? Première prise de cannabis, ça a été un accro. C'est toujours le cas quand la personne. Alors, on va expliquer. La personnalité, c'est-à-dire et la synthèse effectuée par une personne de ses différents désirs et craintes à court et à long terme. Une personne équilibrée, elle sait ce qu'elle veut, elle peut se fixer des buts. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. Les personnes fragiles présentent des désirs morcelés, déstructurés par la construction psycho-affective et sont très sensibles aux stimuli immédiats et alimentaires. Je vous expliquerai tout à l'heure dans la deuxième partie pourquoi. C'est-à-dire qu'on devient accro au plaisir immédiat parce qu'on n'est pas capable d'avoir du désir à long terme. Par exemple, le gars qui part missionnaire, les gars qui partaient missionnaires en Extrême-Orient il y a un siècle, ils savaient en partant qu'ils avaient une durée de survie de 3 ans. Alors, si ce n'était pas les opposants à la foi, c'était les microbes. Et ils le savaient. Mais ils espéraient. Un plaisir énorme, celui de la vie auprès du Seigneur dans le ciel. Et ça la faisait braver tous les dangers, mais ce n'est pas parce qu'ils ignoraient, hein, ils le savaient. Mais ça peut être aussi que des plaisirs trop violents ont fait une trop grande empreinte dans le système amygdale-hippocampe. Je vais donner un exemple qui m'est arrivé récemment. Un garçon, enfin un homme, qui est donc dépendant sexuel, et voilà ce qui lui est arrivé, me raconter. Il se masturbait depuis l'âge de 14 ans, mais il n'arrivait jamais à l'orgasme. Alors il en prouvait une certaine honte, mais enfin ça ne l'empêchait pas d'essayer. Puis à 21 ans, quelque chose s'est développé dans sa tête, et hop, il a son premier orgasme, après 5-6 années. Enfin, oui, et là, l'orgasme géant, avec perte de connaissance. Et là, c'était trop fort. Depuis ce temps-là, il cherche à reproduire, comme avec la cocaïne, ce flash génial, mais mortel. Je finis là-dessus, c'est ma dernière dernière de la première partie. En effet, depuis 1954, nous savons que le plaisir est mortel quand il n'a pas de régulation. Vous avez ici un rat en train d'avoir un orgasme parce qu'il a appuyé sur la pédale. On a relié son cerveau avec une électrode dans le cerveau des émotions dont je vous ai parlé, dans le septum, et il peut s'envoyer lui-même en appuyant sur la pédale. Et le gars qui a expérimenté ça, il s'appelle Holds, Holds, en 1954. La même année, Heath, Heath, montre que chez l'humain, c'est pareil. Et donc, le rat s'envoie des orgasmes par petits micro-courants électriques dans le cerveau directement et il ne cesse d'appuyer sur la pédale 2 à 3 fois par seconde. Oublie de manger et meurt. Donc si on était, comment dirais-je, expérimentalement à avoir autant de plaisir qu'on voudrait, eh bien on meurt très rapidement. Et donc l'idée d'une civilisation fondée sur le plaisir, on n'ajoute pas qu'il doit être régulé, c'est du suicide. Toutes les civilisations et tous les individus qui n'ont pas su mettre un frein à leur désir et leur plaisir pour le gérer, comme vous aviez dit dans votre question tout à l'heure, sont morts. Les délices de Capoue, les orgies romaines, etc., tout ça a disparu parce que ça ne peut pas ne pas disparaître. Donc, ce n'est pas qu'on soit contre le plaisir, il faut simplement savoir s'en servir. Ça me rappelle un peu le 230 volts. 230 volts, c'est bien, mais si on met les doigts dedans, on peut mourir. Ceci dit, c'est quand même bien, le courant électrique. Le plaisir aussi, c'est bien, c'est même indispensable à la vie, à condition qu'il soit régulé. Tout l'art, c'est de retrouver la régulation, nous le verrons dans une seconde partie.